Salut à tous et merci d'écouter ce nouvel épisode du journal du meneur dans Club JDR. Je suis Guillaume Vendée et je suis accompagné de Jean-Michel Abrassard. Salut Jean-Michel.
Salut Guillaume, ça va ?
Écoute, ça va très bien. Comme je te le disais un petit peu en pré-intro, moi j'étais très occupé ces derniers temps, j'ai pas pu développer le jeu de rôle tel que je l'aurais souhaité, mais je vais quand même t'en toucher quelques mots après. Et puis on le sait maintenant, enfin si les gens écoutent le podcast, tu ne t'arrêtes plus, surtout la partie d'ailleurs en ligne, hein, qui continue à prendre de l'importance de ton côté, je crois, non ?
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais toi, on a mis aussi quelques-unes de tes parties là récemment, donc
Ouais,
les gens ont pu
effectivement.
écouter ton style de mastering.
Ouais, je vais bientôt terminer cette campagne. J'ai enregistré le deuxième scénario sur les trois scénarios du ressac de Brin Celidou. En fait, pour tout dire, j'ai même été un peu déçu. Alors, je voudrais pas spoiler, c'est toujours un plaisir de faire du jeu de rôle, mais j'ai été déçu par la campagne en tant que telle. On en reparlera peut-être à l'occasion.
Ouais, c'est vrai, il faudra qu'on réenregistre quand tu auras terminé, qu'on en reparle
Exactement.
évidemment. Très bien. Mais aujourd'hui, on a dit qu'on discuterait d'un document qui vient d'être publié par Monte Cook Games, qui est un éditeur de jeux de rôle évidemment, et qui s'appelle Consent in Gaming, donc le consentement dans le jeu de rôle, et qui est un document gratuit. Je pense qu'on l'a téléchargé sur DriveThruRPG. Enfin, les gens trouveront en utilisant Google. Hein, Google est votre ami, mais voilà. Ouais, c'est un document sur le consentement en jeu de rôle, et on l'a tous les deux lu, et puis on va en dire ce qu'on en a pensé.
Tout à fait, ouais, c'est une initiative que t'as portée. C'est un sujet, comme je te le disais là aussi un petit peu avant l'enregistrement de l'émission, qui moi me touche pas mal parce que quand on lit le document, il y a deux sentiments. Et puis tu pourras le représenter évidemment dans les grandes lignes juste après, mais moi je te fais part d'ores et déjà des deux sentiments que j'ai eus en lisant ces quelques pages. C'est assez court, hein, ça se lit très très vite en anglais. C'est un premier sentiment qui est de dire que. Alors, donc, moi, ça m'a évoqué des situations personnelles. Honnêtement, j'ai mal vécu dans des expériences de jeu de rôle, alors que toute une période de ma vie, le jeu de rôle a été juste l'association de la réunion avec les copains dans des bons moments. Mais j'ai connu d'autres moments par la suite, et donc ça me les a évoqués. Et je comprends qu'on puisse aborder ce sujet-là dans un document comme ça pour aider les joueurs à prévenir ce genre de situation ou à mieux les gérer. Et en même temps, j'ai eu aussi un sentiment. Et tu vas me dire là aussi ce que tu en penses, mais qui a été presque un peu exagéré. C'est-à-dire que ça donne l'impression de ne plus faire du jeu, mais d'être dans des expériences qui peuvent même faire peur. Enfin, en gros, quelqu'un qui découvre le jeu de rôle, je ne sais pas si je lui conseillerais la lecture de ces quelques pages. Par certains aspects, oui, parce que ça peut prévenir des situations difficiles. Et par d'autres aspects, ça donne presque l'impression que le jeu de rôle est une expérience bien plus que ludique et qui peut affecter profondément les personnes qui y participent. Je ne sais pas si tu as ressenti ces deux sentiment-là à la lecture du doc.
Oui, je pense aussi, mais c'est pas seulement la lecture du document, mais tous les débats qu'il y a sur ces questions-là actuellement, évidemment. Et une des raisons qui m'a motivé à discuter de ce sujet-là, c'est parce qu'en juin, je pense, il y a eu une convention à Londres où il y a eu un cas assez exemplaire de situation problématique où les donc il y a eu un c'était une convention de jeu de rôle, donc on peut jouer à des tables de jeu. Et il y a un meneur qui a fait que les personnages joueurs vivent une situation de viol collectif, donc ils se sont fait violer tous par des PNJ de manière très crue et explicite. Et donc ça a été relayé, enfin les joueurs en question ont relayé le fait que l'expérience était très perturbante pour eux au comité organisationnel, et le comité a banni le meneur de jeu en question, et ça a fait un peu les news. Et c'est vrai qu'on se dit, waouh, okay. Enfin, évidemment, le meneur de jeu s'est défendu en disant que c'était pour choquer, pour créer un choc comme ça. C'est vrai que voilà, ça ne me viendrait jamais à l'idée de mettre ça dans une de mes parties. Mais donc, on se dit, bah, si ça existe, ça justifie l'existence de ce genre de document aussi, pour dire aux gens, et voudrait peut-être y réfléchir à deux fois avant de faire ce genre de choses dans vos scénarios.
Oui, et je pense que le document a aussi sa vertu dans le cadre de groupes qui se connaissent moins. Enfin, je crois que de ton côté, tu joues avec des personnes que tu connais parfois depuis de longue date, mais en tout cas que tu as l'habitude, avec qui tu as l'habitude d'échanger. Moi, de mon côté, c'est pareil aussi dans une certaine mesure. Je pense que dans des conventions, dans des associations dans lesquelles on se retrouve, ou tout simplement quand on crée un nouveau groupe de jeux de rôle, ça peut poser ce genre de problème. Et je crois que c'est vraiment là où ce type de guide dans ce document est hyper approprié. C'est justement de permettre de donner un cadre un peu plus précis que les règles du jeu, qui sont liées évidemment au jeu de rôle en tant que tel, mais qui sont pas forcément des règles sociales, et c'est pas des choses qui sont expliquées dans les livres de jeux de rôle. D'ailleurs, j'arrive à me demander si cette histoire de consentement ne devrait pas faire partie des bons vieux manuels de jeux de rôle. Voilà, c'est un avantage, c'est que c'est transverse, mais je trouverais ça intéressant que ce soit réamené, parce qu'on parle à chaque fois de qu'est-ce que c'est que le jeu de rôle dans tous les manuels de jeux de rôle. Il y a quelques pages qui parlent de ça, pour ceux qui connaîtraient pas, mais on va pas jusqu'à ce niveau-là de détails. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant.
Oui, en fait, c'est marrant, en prenant le document en main et en réfléchissant à ces questions-là, je me suis dit aussi, je me suis fait aussi la même réflexion, mais oui, mais moi je joue souvent avec des joueurs que je connais depuis longtemps. Mais en lisant le document, je me suis dit que j'avais tort de penser ça.
Exact, ouais.
Parce qu'en fait, d'abord, forcément, il y a souvent des nouveaux joueurs qui intègrent le groupe, que je connais pas avant qu'ils intègrent le groupe. Et puis, dans le fond, si certains des... Même des anciens joueurs ont eu des mauvaises expériences, ils l'ont peut-être pas forcément exprimé. Et puis c'est pas. Et donc, en gros, quoi, ça veut dire quoi en fait? J'ai un groupe qu'on se connaît de longue date. Ça voudrait dire que j'aurais fait des situations problématiques, qu'ils l'auraient exprimé, et que j'aurais appris au fur et à mesure à ne pas faire ce qu'ils détestent par essai-erreur, en gros. Mais c'est pas génial en fait comme
Non,
procédure.
c'est un peu, ça peut créer des effets de bord, ce genre d'expérimentation.
Voilà. Donc, en fait, ce que je vais expliquer, on va en discuter contrairement, c'est que moi-même, j'ai des limites très claires et je pense que déjà, comment dire, je mets mes propres garde-fous et donc probablement que mes propres garde-fous ont limité pas mal de problèmes. Mais finalement, je pense que même avec un groupe que je connais bien, après avoir lu le document, je me suis dit non, non, en fait, même si c'est mes copains d'enfance, qu'est-ce que j'en sais, moi, que. Par exemple, je sais qu'il y a un de mes copains qui est claustrophobe dans la vie de tous les jours. Mais est-ce que ça veut dire que je dois m'interdire de mettre une situation où son personnage joueur est dans une pièce, ou bien est-ce qu'il est OK avec ça? Parce que comme on va voir dans le document, il y a un document à remplir avec des gradations. Donc en fait, peut-être que dans la vie de tous les jours, il est claustrophobe, mais qu'en jeu, il tolère une situation de claustrophobe pour son personnage, j'en sais rien en fait, tu vois. Donc même avec des gens qu'on connaît, entre guillemets, depuis longtemps, est-ce que on n'a pas ce niveau de précision que propose le document en question, je trouve.
Quelque part, c'est marrant parce que très vite, on peut vite sortir du jeu de rôle en fait quand on réfléchit à ce qui est indiqué. Et ça pourrait être même des préceptes de vie en société, hein, même entre collègues, entre amis, voire même, je pense, dans des situations de couple. Alors bien sûr, quand on vit avec quelqu'un depuis pas mal d'années, bon là pour le coup, là aussi en ayant créé des situations difficiles ou pas, je pense qu'on connaît bien la personne. Ça dépend de chacun, mais pour savoir quelles sont les habitudes de vie et jusqu'où on peut aller. Mais pourtant, c'est un guide qui pourrait très très bien fonctionner pour plein d'aspects d'échanges en dehors du jeu de rôle. Et effectivement, on ne peut pas trop savoir, et on n'est jamais sûr, même si on a l'impression de bien connaître la personne, de jusqu'où on peut aller. Et alors justement, le premier élément qui est décrit dans le document, c'est que il est hyper important de penser à soi en tant qu'individu. Et de savoir ce qui est bon pour nous, et surtout de partir du principe qu'il n'y a pas, c'est central, hein, mais qu'il n'y a pas d'accord implicite. C'est un peu comme quand on remplit un formulaire aujourd'hui sur Internet pour commander un truc. Il y a un opt-in explicite à former, donc on doit vraiment cocher la case pour explicitement dire qu'on accepte de recevoir des informations commerciales. Ben là, dans le jeu de rôle, c'est pareil. C'est qu'il faut explicitement dire qu'on est OK avec des situations en particulier avant de les vivre. Et alors évidemment, ben, ça soulève la question que tu as dû te poser dès que tu as lu le document, c'est-à-dire où est la part de découverte dans le jeu de rôle? C'est une question qu'on peut se poser. Si jamais on liste à l'avance tous les éléments qu'on peut accepter de vivre ou qu'au contraire on n'accepte pas de vivre.
Oui, ça c'est pas un trop gros problème, je pense, parce que c'est surtout pour des jeux plutôt axés horreur ou bon voilà, il y a des jeux qui sont beaucoup plus soft en termes de contenu et qui vont pas ou la probabilité de rentrer dans une de ces situations-là où il faudrait vraiment avoir un meneur de jeu très 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 perturbé, mais ouais, c'est ça quoi. Mais ouais, ce qui est aussi intéressant, ils insistent. Oui, donc brièvement, oui, on reviendra parce qu'on va parcourir la liste, je pense. Mais ce qui m'a vraiment fort frappé, c'est pour ceux qui. Donc il y a une liste de choses hein, qu'on peut cocher, on verra. Et alors il y a trois niveaux où on est bon, mais ou bien on est OK, mais il faut y aller un peu, faut être plus prudent. Et puis il y a pas du tout OK, quoi. C'est les 3 degrés. Ça c'est ça qui est vraiment super intéressant, ces 3 degrés, moi je trouve. Mais une des choses qui m'a vraiment fait réfléchir, c'est que mon réflexe a priori c'était de me dire, moi et mes copains, on fait de l'horreur depuis plus de 10 ans pour ceux que je connais bien, enfin et même encore plus avant pour ceux que je connais encore mieux, depuis qu'on est adolescent, donc 25 ans quoi en gros. Moi et mes copains, on a fait de l'horreur et donc c'est fair game, je sais que je peux franchement y aller sur tout, mais en fait, en lisant la liste, je me suis rendu compte que moi-même, il y avait des trucs que je cochais en disant non, ça va pas, etc. Ça, je préfère des options, ce qu'ils appellent fade to black, donc c'est pas explicite dans le scénario. Donc, je me suis rendu compte que même moi, en fait, cette liste, je mettais pas du tout que tout était OK pour moi. Donc, pourquoi est-ce que je devrais penser que pour mes copains, c'est le cas aussi? C'est absurde.
Et paradoxalement, d'ailleurs, enfin, il y a plusieurs catégories dans ces éléments-là. Il y a horreur, et bon, horreur, c'est vraiment des choses qu'on a l'habitude de voir dans des jeux de rôle comme l'Appel de Cthulhu. Donc, enfin, c'est un exemple d'ailleurs. Mais il y a quand même le fait de blesser des enfants qui peut, je pense, peut-être en perturber quelques-uns. Mais quand on accepte de jouer à l'Appel de Cthulhu et qu'on connaît l'Appel de Cthulhu, je pense que ça, pour le coup, j'ai l'impression que ça peut plutôt bien passer. En gros, hein, dans les grandes lignes. Mais par contre, il y a d'autres sujets qui sont plus sociétaux ou liés à des situations en tant qu'individu qui peuvent être perturbantes. Alors, il y a les notions évidemment de racisme et les notions, là, tu les avais abordées tout à l'heure dans le cadre de la convention d'agression sexuelle. Ça, je pense que c'est des trucs, ça me paraît hyper, hyper, hyper important, là aussi, d'explicitement dire jusqu'où on peut aller finalement.
Ouais. Mais en fait, ouais, enfin moi je mettrais des bémols à ce que tu dis parce que par exemple, j'ai aussi un truc super important avec oui, je connais bien mon groupe de joueurs, blablabla. Cet argument-là, c'est que moi j'ai changé sur certains de ces trucs au fur et à mesure des années et je pense que justement la blessure physique sur des enfants, quand t'es pas parent, ça ne t'affecte pas de la même façon que quand t'es parent.
C'est vrai.
Je crois que t'es parent aussi d'ailleurs, donc tu sais de quoi
Bien
je
sûr.
parle, mais par exemple. J'ai eu le cas avec It, le film d'horreur, hein, ça, donc en français. Quand j'étais adolescent, la violence sur les enfants, je ne le vivais pas du tout la même chose que quand maintenant je vois le nouveau It et que je vois des enfants qui ont de l'âge de mes enfants, qui se font agresser. Donc, en plus, ouais, on dit on connaît les gens, oui, mais il y a des situations où ça peut évoluer. Et
C'est
donc,
certain.
ouais, moi, je suis pas sûr, par exemple, enfin, on rentre dans les catégories, mais la blessure aux enfants, moi, j'aurais tendance à mettre un fade to black, hein. Donc ça veut dire j'aurais tendance à dire c'est ok dans un scénario d'Appel de Cthulhu si c'est sous-entendu, mais si c'est pas explicité devant toi où je dis l'enfant vient de se faire décapiter, blablabla quoi. Je suis pas en train de décrire la scène où t'es pas toi-même témoin, mais ou en tout cas c'est un truc où je mettrais au moins yellow, c'est ok si c'est enfin en dehors de la caméra ou bien si on en discute auparavant. Donc, enfin, moi, je serais déjà plus. Alors que quand j'étais plus jeune, quand j'avais pas d'enfant moi-même, j'aurais dit, oh, ouais, pas de problème, tu peux y aller.
Oui, et ce que tu dis est vrai aussi pour finalement pas mal d'éléments de situation. Je veux dire, quand on parle là aussi dans la catégorie santé physique et mentale d'ailleurs, quand on parle de cancer par exemple ou de terrorisme, je pense que si on a vécu des situations où on a été accompagné parce qu'on a été malade ou tout simplement parce qu'on s'est retrouvé dans une situation d'acte terroriste, je peux comprendre aussi là aussi que ça évolue. Et c'est pas forcément des choses qu'on sait parce qu'on peut être amené à jouer avec des personnes avec qui on se dit pas tout. Et à plus forte raison, quand c'est des choses que les personnes, quand les joueurs vivent mal, ils vont pas forcément explicitement en parler. Et alors, c'est un des éléments qui est quand même prégnant dans cette liste. C'est que ça force quand même à dire qu'il y a un problème. Parce que sinon, on part du principe que si on parle pas, si on communique pas sur ces sujets-là, on va pas savoir jusqu'où on peut mettre le curseur. Et donc, c'est quelque chose de très cool, je trouve, c'est que ça force un petit peu à se poser des questions et à discuter en amont des parties. Ça, je trouve ça
Ouais.
très chouette.
Mais en même temps, ce qu'ils insistent beaucoup sur le fait que un refus de quelque chose ne doit pas être un sujet à débat, dans le sens que si la personne ne veut pas
Ça
en débattre,
justifie pas.
ouais, ça, on ne doit pas, elle ne doit pas justifier. Si elle dit non, c'est non, et puis c'est tout, quoi. C'est juste, Et ça, je trouve ça aussi super intéressant de dire c'est pas quelque chose que. Parce que c'est vrai que c'est le réflexe un peu naturel qu'on aurait de dire, mais non, c'est pas grave.
Ouais, effectivement. Non, mais t'as raison.
Allez, une araignée géante, on s'en fout, ça fait pas vraiment peur, c'est
Tu te
juste
doutes
dans
bien
ton
que ça n'existe pas, enfin.
Voilà, tu vois, alors. Mais oui, mais si la personne est vraiment très arachnophobe, elle a peut-être pas envie d'avoir un scénario avec une énorme araignée géante dans son scénario.
Exactement.
Et donc, on envisage. En fait, parfois, on échoue à se projeter dans la psychologie des autres, à se rendre compte que des choses qui pour nous, paraissent anodines, ne le sont pas forcément pour quelqu'un d'autre.
Et ce qui joue d'ailleurs sur cet aspect empathie, tu parlais des enfants tout à l'heure, et puis alors on pourrait faire des analogies avec ce que tu fais à côté au niveau de la pédagogie pour des enfants avec Zach et Zoé notamment. T'en retoucherai un mot sans doute, on en profitera, mais je repensais à ces éléments-là vis-à-vis des enfants quand ils expriment ce qui leur fait peur. Enfin, quand on voit le soir, moi pour la petite anecdote, j'ai mon fils aîné le soir, quand il se couche, ça le terrorise de s'imaginer qu'on puisse s'absenter, qu'on puisse sortir de la maison. Et parfois, on a pu être tenté de lui parler en lui disant, en rigolant quelque part, en lui disant, mais enfin, qu'est-ce que tu veux qu'on aille faire le soir? On est crevé, on veut rester à la maison. Mais je pense que malheureusement, ne pas faire preuve d'un peu d'empathie et ne pas rentrer dans un dialogue et une écoute, voire même de pas prendre pour argent comptant la peur qui est exprimée par l'autre, ça peut être problématique, ça peut en rajouter et en tout cas ça n'aide pas le problème. Donc c'est aussi ça qui est apporté par ce document, tu as raison, dans le sens où la personne qui exprime une difficulté avec un thème n'a pas à se justifier quoi.
Bah ouais. Surtout que c'est, enfin, c'est pas, comment dire, en fait, le problème, c'est que le jeu de rôle, ça doit être fun. Et donc, s'il y a un détail qui est pas très important, enfin, j'aime bien l'exemple des araignées géantes. Une araignée géante, bon, voilà, si une personne le vit mal, alors que, ou c'est la même, juste mal à l'aise et elle s'amuse pas cette soirée-là, bah, en fait, c'est vraiment bête. C'est
Ouais.
tellement facile pour meneur de jeu d'envisager des scénarios où il n'y a pas d'araignées géantes, il y a suffisamment de monstres. Donc,
Oui.
il suffisait de l'avoir mis sur le papier, et ok, c'est pas bien grave, mais on sait que toi, quand il y a une araignée dans le scénario, tu t'amuses pas, donc bah, on est quand même tous là pour s'amuser. Donc, finalement, dans le fond, c'est pas un très gros effort à faire pour des choses, pour maximiser le fait que tout le monde passe un bon moment. Hein.
La raison aussi pour laquelle le document dit qu'il n'est pas nécessaire de justifier, c'est que parfois il y a même des situations où les personnes ne savent pas elles-mêmes pourquoi ça les gêne. Et il n'y a pas eu besoin de faire une rétrospection sur ce qui te bloque comme thème bah, pour expliquer le fait que ça te gêne. Et là encore, comme tu dis, c'est le fun avant tout. Et la personne n'a pas besoin d'aller faire une introspection pour se justifier et trouver les bons arguments parce que on a le droit de refuser sans motif, quoi.
Oui, ce qui est super, il y a des choses, il y a des idées vraiment très intéressantes, enfin qui m'ont vraiment fait réfléchir dans le document, qui est qu'il y a des choses qui sont dans le scénario, prenons l'exemple de l'araignée géante par exemple, mais il y a aussi des choses qui peuvent être amenées par des blagues, un peu potage du reste du groupe, hein, et parfois ça, j'envisage pas que c'est pas du contenu du scénario lui-même qui peut perturber les gens, mais ça peut être l'humour potage des joueurs. Et c'est vrai que c'était pas mal de faire réfléchir aussi là-dessus. Et donc, il mentionne aussi la possibilité de la carte X-Card, pardon, qui est une carte qu'on met avec un X sur la table. Et alors, si pendant la partie, quelqu'un touche la carte, ça veut dire que il n'apprécie, enfin il est mis mal à l'aise par le contenu qui est évoqué pour le moment, que ça soit en fait le contenu explicite du scénario ou le type de blague qui est fait par les autres joueurs. Et ça, c'est vraiment super intéressant. Dès que quelqu'un touche la carte, c'est un indicateur qu'on doit s'éloigner du contenu en question. Ouais, c'est vrai. Ceci dit, pour moi, pour la X-Card, je dois avouer que il y a une partie de moi qui me dit, ben oui, je voudrais bien le faire. Il y a une partie de moi qui est peut-être un peu gênée d'amener ce genre d'éléments à la table de jeu en disant, bon, ben voilà, c'est bizarre, hein. Parfois, on est soit même un peu gêné d'amener ce genre d'éléments en disant, comme si, enfin, c'est pas une discussion si facile à avoir en termes de, ouais, on est tous copains, mais en fait on peut être amené à dire des choses qu'en fait certaines personnes autour de la table vont être mal à l'aise. C'est vrai que
Je suis
c'est...
complètement d'accord parce que en plus il y a un jugement de valeur quelque part de dire il y a plein de choses d'ailleurs qui sont exprimées derrière ça, mais ça, on peut penser aussi en lançant ce type d'initiative. que les personnes en face vont se dire, oh là là, il a envie d'aborder des choses qui explicitement nous gênent, il a des choses en tête. Alors que non, pas forcément, bien au contraire, je pense que d'installer ce type de fonctionnement, c'est justement pour prévenir ce genre de situation. Et même d'ailleurs, la liste, hein, la liste qu'on a commencé à aborder, qui est présentée dans le document et qu'on va redétailler un petit peu après dans son fonctionnement, de dire aux joueurs avant une partie, une première partie, de dire, tiens, au fait, est-ce que tu pourras me remplir la liste de consentement des choses que tu acceptes qu'on fasse ou pas, et avec le vert, jaune ou rouge.
vrai
Bon, le faites pas sans l'expliquer, parce que je pense que ça peut paraître bizarre, mais même ça, c'est très délicat d'un point de vue échange entre copains en préparation d'un jeu de rôle, finalement.
ouais, c'est vrai, c'est vrai. En même temps, c'est peut-être aussi parce que justement, ça fait pas partie de nos pratiques depuis toujours et que voilà, il faut faire un peu évoluer le contenu. Moi, je dois confesser qu'avant même le document ici, ça m'est arrivé sur le groupe privé sur Internet pour les joueurs, pour mon groupe physique. Je leur ai demandé quand ce genre de sujet a émergé dans la communauté de jeux de rôle et je leur ai dit, bon voilà, est-ce qu'il y a des sujets que vous souhaitez que je n'aborde pas? Est-ce qu'il y a des sujets que j'ai abordés par le passé, etc. Donc c'est vrai que je l'ai fait comme ça, mais le fait d'avoir une liste, c'est quand même.
C'est plus pratique.
C'est plus, vraiment plus pratique que juste demander, parce qu'en plus, quand tu fais ça, et en plus, il y a le secret de personne ne va regarder ta feuille, en gros.
Ouais.
Tu peux leur demander de le remplir et de la ramener la fois d'après, mais si tu demandes comme ça, il va devoir dire, ah ouais, mais en fait, moi, j'aimerais bien que tu parles pas d'araignée. Il y a un aspect où tout le monde est témoin de ce qu'il est en train de dire, et
Exact.
du coup, là, la feuille est vachement plus pratique, moi, je trouve.
Ouais, c'est très malin comme outil. C'est vraiment très très malin, effectivement. Comment on
Ouais.
peut faire?
Ouais,
Est-ce
moi,
qu'on... Alors, je sais pas si on a
toujours,
couvert.
toujours sur la même ligne d'idée, je trouve que voilà, en fait, la liste elle est préemptive, du coup, par rapport à la X-card où tu dois faire un geste. Je sais bien que le
Ouais.
geste est là conçu pour être minimal, pour encourager le joueur à le faire, mais tu sais, dans le feu de l'action, tout le monde s'amuse, il y a des le sujet commence à dériver vers des choses qui te mettent mal à l'aise, et toi, tu dois casser l'ambiance en mettant ton doigt là-dessus. En fait, il y a aussi une autre stratégie qui est une phrase verbale qui est No thank you evil, non merci démon, je sais pas, qui est une phrase qui est un mot, qui est un safe word qu'on peut dire dès que le sujet. Mais je pense que il y a une gêne à dépasser pour utiliser ces deux outils, tandis que la feuille, voilà, ça peut être fait en deux parties. Les joueurs ramènent tous la feuille, le meneur de jeu dépouille ça de son côté, et on n'en parle plus jamais, sauf si, enfin non, théoriquement on ne devrait plus en parler puisque voilà, le meneur de jeu a une liste très claire de choses qu'il ne doit pas amener dans la table de jeu,
Oui.
et ça devrait normalement bien se passer en gros.
Mais on peut s'imaginer aussi qu'il y ait des situations que les joueurs n'aient pas anticipées. Donc en remplissant la feuille, coche vert pour tout, pour la majorité des choses, tu vois, ils se disent non, ça posera pas de problème. Et au moment où tu le vis, bah, tu peux te dire, ah, finalement, je me rends compte en le vivant que c'est pas forcément évident. Là, encore une fois, je peux t'évoquer très rapidement la situation. Alors tu parlais de la situation de viol collectif en convention. Moi, j'avais fait un personnage et un premier scénario avec un groupe de personnes que je connaissais pas quand j'habitais à Paris. C'était de RuneQuest et c'était le tout premier scénario. Alors, je ne sais pas si c'est un scénario d'introduction habituel, mais en tout cas, on était en tant que joueur plongé dans une colonne d'esclaves qui était transportée, quoi, qui se déplaçait. Et l'un d'entre nous avait dû émettre le fait qu'il essayait de se libérer ou qu'il essayait de protester. Et de manière assez explicite, sans être trop détaillé, il s'était fait battre et violer par les gardiens de la colonne d'esclaves. Et ben, je t'assure, Jean-Michel, moi, j'ai pas vécu le reste du scénario de manière très confortable. Et d'ailleurs, j'ai pas fait d'autres scénarios avec ce groupe parce que je l'ai mal vécu. Et d'ailleurs, je l'ai même pas exprimé. J'en ai pas parlé avec ces gens-là parce que c'était pas des copains. C'est des gens que j'avais découvert à l'occasion d'une recherche de groupe. Et je pense que si j'avais dû remplir la feuille avant le scénario, j'aurais probablement pas mis de limite sur ces situations-là, mais le fait de l'avoir vécu en scénario m'a posé problème et j'aurais eu la carte, j'aurais été ravi de poser mon doigt sur la carte à cette époque-là, quoi.
Ouais, c'est marrant, c'est super intéressant. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça comme ça, mais c'est vrai qu'il faut déjà avoir un bon degré d'introspection finalement pour être capable de déterminer. Et dans le fond, c'est la même chose avec des films. Par exemple, en voyant la
Ouais.
nouvelle, le remake de It, je me suis rendu compte en le voyant en me disant, waouh, maintenant je suis vraiment devenu sensible à la violence vis-à-vis des enfants alors que je l'étais pas avant. Mais c'est en le vivant que je m'en suis rendu compte. Sinon, avant, j'aurais pensé que j'étais toujours au même stade où ça ne me dérangeait pas finalement. Ouais, c'est super intéressant de se rendre compte de tous ces problèmes qu'on peut avoir en cours de partie aussi. Hein.
Il y a aussi un élément qui est abordé dans le document que je trouve vraiment très cool. Donc, je ne sais pas comment on pourrait le traduire. Ils disent Be aware of bleed. Comment on dirait ça en français, Jean-Michel?
Aie conscience des débordements. Et les débordements en question, c'est les débordements des émotions des personnages vers les joueurs ou des
C'est
joueurs vers les
ça.
personnages.
C'est ça. Et là, moi, encore une fois, ça fait écho à une deuxième expérience. J'en aurai pas d'autres, hein. J'arrête là mes introspections holistiques de mon passé. Mais c'est une deuxième phase qui, là, moi aussi, m'a pourri un groupe de joueurs. C'est que j'ai ressenti effectivement le fait que. Je l'ai peut-être mal interprété d'ailleurs, mais c'était un groupe de joueurs où il y avait beaucoup de liberté individuelle et il y avait beaucoup de place qui était menée pour les complots d'un personnage sur l'autre. Il y avait finalement assez peu de constitution d'une histoire où le groupe va dans le même sens. Oui, c'était vrai pour certaines lignes directrices, mais dans les détails, il y avait une grande majorité du jeu qui consistait à ce que les joueurs complotent les uns contre les autres. Et je suis convaincu que ça plaît à plein de monde. Moi, ça me plaisait pas forcément. Et j'ai eu du mal à discerner les limites entre le fait qu'un des joueurs m'avait fait des trucs dans le scénario et de faire la limite avec la personne. Et pourtant, ça avait l'air pour tout le monde d'être assez naturel. Mais je l'ai mal vécu aussi à ce niveau-là. Et je pense que ça fait partie, là encore, des choses sur lesquelles il faut être capable d'échanger avant pour connaître le cadre de jeu et surtout se donner la liberté d'en parler. Et encore une fois, l'erreur que j'ai faite, c'est de ne pas pouvoir explicitement discuter de ce sujet et plutôt fuir la situation. Ce qui est dommage parce qu'il y a peut-être des pistes de résolution de problèmes. Mais ouais, ce débordement entre les joueurs et les personnages, c'est un truc qui m'a pas mal parlé. Je ne sais pas si ça t'a évoqué des situations, toi, dans tes groupes passés.
Et moi, en tout cas, enfin, le problème, c'est que j'ai un peu fait partie en tant que joueur, mais j'ai surtout été meneur de jeu et en lisant en fait tout ce document, je me suis rendu compte que moi-même, je censurais des choses qui sont sur la liste. Par exemple, c'est vrai que j'utilise un peu mon rôle de meneur de jeu pour largement, complètement décourager les romances entre joueurs, par exemple. Pour moi, il ne doit pas avoir de romance entre joueurs. Il peut avoir des romances entre joueurs et personnages non joueurs, mais pas entre joueurs. Et par exemple aussi, dans mes scénarios, je vais jamais mettre des scènes de viol, sauf voilà. Je me suis rendu compte que il y a des choses où je faisais des warnings, quoi. Par exemple, il y a un scénario de l'appel de Cthulhu que je n'ai pas encore joué, mais parfois je me dis, tiens, je vais le faire jouer, où ça tourne autour de la pédophilie, du meurtre d'enfants. Mais ça, c'est clair que c'est un scénario qui est vraiment, comment dire, très dark, de l'appel de Cthulhu. Ça ne me viendrait pas à l'idée de le faire jouer sans faire un avertissement à mes joueurs en disant, écoutez, on va jouer quelque chose qui va vous proposer des thèmes assez noir. Hein. Idem pour des sujets comme le racisme, etc. Maintenant, il y a des jeux de rôle qui présentent pas mal d'éléments où on a un personnage noir aux États-Unis, etc. Particulièrement dans les années 30. Et bon, en général, je vais dire aux joueurs, écoute, voilà, c'est ça l'expérience que je te propose. Et à ce moment-là, évidemment, il pourrait dire non si ça le dérange fort. Mais je me suis rendu compte que moi-même, je mettais en fait des barrières comme ça, sans forcément m'en rendre compte. Et d'une certaine façon, je présupposais que tous les meneurs de jeu faisaient ça, ou mettaient les mêmes barrières que moi. Par exemple, s'il y a une scène de sexe entre un joueur et un personnage non joueur, bah, je fais automatiquement un fade to black. Donc, c'est-à-dire que ça, je décris pas la scène de sexe. Je me dis, mais enfin, qui décrirait une scène de sexe dans un jeu de rôle? Ça me viendrait même pas à
C'est
l'idée.
extrêmement dérangeant, je trouve.
Je me dis, en plus, ouais, enfin, c'est ça le réflexe, c'est qu'on narratif, c'est qu'on imite le cinéma et c'est ce que fait le cinéma. Mais bon, je veux dire, visiblement, il y a des choses que je fais qui me paraissent naturelles et normales, mais tous les meneurs de jeu font pas ça, et donc c'est pas mal d'avoir quelque chose qui mette à plat ce genre de problématique. Hein. Peut-être qu'on peut parcourir la liste si ça te va.
Ouais, bien sûr. Au contraire, ouais, on peut parcourir la liste, effectivement. Donc, il y a plusieurs. Tu parlais de la feuille ou de la liste des éléments qui sont contenus dans la feuille, Jean-Michel?
Bon, oui,
Parce que
enfin
les
la
éléments de la feuille sont pas inintéressants, parce qu'il y a quelque chose de vraiment qui c'est enfoncer une porte ouverte, mais qui est de mentionner le nom du meneur de jeu. Mais ça paraît bête, mais ça a du sens aussi parce que. Bah déjà, il y a le côté recueil de listes, mais aussi je pense que selon le meneur de jeu, il peut y avoir aussi des perceptions différentes. Donc en tout cas, cette association de joueurs-meneurs du jeu est bien indiquée. Et aussi planifier dans la fiche le thème qui est prévu d'être joué. Et là, c'est intéressant parce que ça permet d'enchaîner sur une question qui se pose un peu à la façon du portrait chinois. Mais si ce jeu était un film, comment serait classé ce film? En termes d'interdiction d'âge ou de catégorie de diffusion, alors il donne évidemment le rating américain qui est G, PG, PG-13, etc. Et donc, bon, c'est pas forcément évident, nous en Europe, de faire des correspondances entre ces niveaux-là, mais la question n'est pas là, elle est plutôt de se dire, et c'est la première étape dans cette fiche, qui est à initier vraiment par le maître de jeu, qui est de dire les parties qu'on va faire ensemble, si c'était un film, bah, quel type de film ce serait en termes de catégorie. Alors, c'est toujours compliqué de savoir, on ne sait pas tous, nous, quand on n'est pas versé dans le monde du cinéma ou de la psychologie, ce qui peut affecter telle tranche d'âge, mais ça permet d'aborder des thèmes. Ça, je trouve ça cool de se faire ce petit exercice-là. Je ne sais pas si c'est un élément qui, toi, te parle ou si ça te paraît trop trivial dans cette fiche.
Ouais, non, ça m'a beaucoup parlé. Parce que par exemple, c'est vrai qu'il y a des joueurs qui viennent, bon, c'est mes joueurs à moi qui les amènent, et alors, en gros, on me dit ils veulent essayer le jeu de rôle. Et puis ils arrivent dans notre groupe, et forcément, ce qu'on fait, c'est de l'appel de Cthulhu. Mais est-ce qu'à un moment, on leur a précisé que le type de jeu, que ça allait faire de l'horreur, et qui donc, est au minimum, enfin, au moins art, quoi. C'est-à-dire qu'il y aura du sang, il y aura des. Bon, l'appel de Cthulhu, c'est art, quoi. Ça, c'est vrai qu'il y aura des décapitations, de la violence physique, etc. Mais est-ce qu'on leur a dit, tu vois, je me dis, c'est vrai qu'on est-ce que parce que vouloir faire du jeu de rôle et puis faire de l'appel de Cthulhu en termes d'expérience, c'est pas forcément la même chose. Et peut-être que ce qu'il vaudrait faire, ça serait plutôt de la fantasy soft, voilà, où il n'y a pas de violence. Et c'est vrai que je me suis dit, ouais, c'est vrai, juste préciser ça, quoi. Au fait, vous allez être dans un film d'horreur, c'est un film d'horreur dont on parle, donc il y aura du body horror, il y aura des monstres avec des tentacules et tout ça, quoi. Parce que évidemment, pour nous, ça paraît évident, mais pour quelqu'un qui a jamais fait de jeu de rôle et qui connaît pas plus que ça.
Surtout qu'alors je crois que toi et moi on est assez fans de cet environnement de l'appel de Cthulhu parce que bon, il nous paraît être un peu un socle de base peut-être de découverte de jeux de rôle, mais effectivement, tu as raison, je pense que dans l'esprit de beaucoup, ça doit pas être forcément le premier jeu qui viendrait à l'esprit, et sans doute que beaucoup parleraient plutôt, je sais pas, d'un Pathfinder par exemple, d'un Donjons et Dragons. Est-ce
Ouais,
qu'il
c'est ça.
Enfin, je ne sais pas s'il y a un jeu idéal, mais oui, il y en a qui sont quand même beaucoup moins susceptibles d'amener des situations dérangeantes que l'appel de Cthulhu. C'est quand même le jeu où il y a une fiche, où il y a une partie de la fiche de personnage où il y a de marqué santé mentale et où tu comptes tes points de santé mentale, donc tu sens qu'il y a un problème, quoi.
Ouais, moi je pense que là, la baseline, c'est Donjons et Dragons. Donc, à mon avis, la plupart des joueurs devraient avoir l'idée, en gros, on va faire du Skyrim, quoi, ou du Elder Scrolls, un truc comme ça. Mais quand tu joues à Elder Scrolls, c'est vrai qu'il y a quelques quêtes qui sont un peu plus horreur, mais la majorité des quêtes, c'est quand même pas de l'appel de Cthulhu, hein,
Non, c'est pas ce point-là. Très bien, alors dans la fiche du coup on a après derrière les trois catégories que tu avais décrites hein, qui sont vert, jaune et rouge, donc en gros en vert ça va, en orange c'est normalement ça va mais bon faut y aller avec des pincettes et ça nécessite peut-être certaines discussions et puis rouge c'est à bannir et donc il y a effectivement plusieurs catégories, donc horreur, les situations relationnelles, les problèmes sociétaux et culturels, la santé physique et mentale, et puis bah, d'autres sujets, parce que la liste n'a pas forcément pour prétention d'être 100% exhaustive. Tu trouves que c'est bien choisi, ces différentes répartitions, toi, de ton côté?
Oui, c'est super intéressant parce que c'est vrai qu'on, encore une fois, j'aurais pas pensé nécessairement à toutes ces catégories. Alors, ça explicite, rien que de penser avec ces quatre aspects, on voit différentes choses qui émergent. Parce que c'est vrai que moi j'aurais vite pensé à la catégorie horreur, bah oui, c'est vrai que je propose des scénarios, voilà, même l'anneau unique, ça a des araignées géantes dedans. Voilà.
Effectivement, ouais.
Donc voilà, c'est la catégorie qui te paraît la plus évidente, du sang, bah oui, forcément il va y avoir du sang. Par contre, c'est vrai qu'il y a, même dans l'horreur, il y a des choses. Par exemple, les globes oculaires, j'y aurais pas pensé. Mais
Moi non plus.
c'est vrai que. Ce à quoi ça m'a fait penser, c'est que j'avais fait un scénario il y a quelques années avec un tueur psychopathe à Arkham qui dépeçait les gens. Et c'était vraiment étonnant parce que, avec mon groupe de joueurs un peu vétérans, c'est un scénario qui les a plus choqués que tous les scénarios où je mets des monstres avec des tentacules dedans. Hein. Donc un tueur psychopathe qui écorche les gens et qui enlève leur peau, etc. Oui, et qui était cannibale aussi, par l'aspect beaucoup plus terre à terre. Donc, et là aussi, ça m'avait surpris. Donc finalement, on ne s'est pas vraiment identifié à l'avance ce qui va choquer les gens. Alors ils ont tous adoré, hein, mais c'est le scénario dont on me reparle encore en disant, ouais, je me souviens que j'avais les... Ça m'avait foutu les chocottes, quoi. C'est marrant, alors que tu te dis, mais enfin, et tous mes scénarios, j'ai mis des chocottes qui vous foncent dessus, vous en foutez complètement.
Ouais, sans doute parce que c'est ce qui fait le plus écho à des craintes du quotidien. Bon, après, j'essaie de creuser et d'en faire une
Non.
pseudo-interprétation, j'en sais rien. Mais moi aussi, j'avoue que là encore, hein, quand je te parle des situations que j'ai vécues, c'est finalement des situations qui sont très proches des relations humaines et des interactions que peuvent avoir les êtres humains entre eux. Plus que finalement avoir un gros monstre géant poilu et velu avec des tentacules, des trucs comme ça, quoi, effectivement. Mais t'as raison, ouais, les globes oculaires, même moi, quand je l'ai vu dans la liste, je me suis dit, ah ouais, dis donc, ils vont dans les détails, mais je pense que c'est un truc qui doit être source de friction pour beaucoup, peut-être. Après, il parle donc des relations. Alors là, c'est ce que tu abordais tout à l'heure, hein, les situations de relations amoureuses et les situations de relations sexuelles. Donc là aussi, il y a la possibilité de cocher pour explicite, la possibilité de cocher pour les relations entre les joueurs et les personnages non-joueurs, et entre joueurs eux-mêmes. Alors moi, je t'avoue que c'est toujours un truc qui, moi, me met un peu mal à l'aise. Il y a d'excellentes vidéos, je trouve, qui parlent. Je ne sais pas si tu as déjà vu les vidéos de les histoires au coin du D20
Ah non, ça ne me dit
sur
rien, non.
YouTube. Qui
Faudrait
sont
que je
d'ailleurs
regarde.
des personnes de chez toi, hein, qui sont en Belgique et qui parlent de leurs exploits de jeux de rôle. Et ils avaient fait une vidéo justement sur qu'est-ce qu'un bon joueur, selon eux. Hein. Et ils parlaient effectivement de ces situations où tu as parfois des joueurs qui décrivent des relations amoureuses de manière si explicite ou qui cherchent ça dans le scénario. Et probablement que ça les amuse. Le problème, c'est qu'encore une fois, comme tu le disais tout à l'heure, le jeu de rôle, c'est des situations collectives. Et si jamais on fait passer devant les intérêts communs ou en tout cas les intérêts partagés nos envies personnelles, ça peut être super gênant. Ça doit être souvent qu'on entend des histoires de jeux de rôle où il y a eu des relations comme ça initiées par un joueur et qui mettent mal à l'aise tout le monde. Je sais pas si t'en as vécu toi, mais.
Oh, moi, je crois que c'est un grand classique, mais évidemment, quand j'étais adolescent et que j'étais en club de jeux de rôle, tu joues à une table, il y a une des rares filles qui est à la table de jeu, et puis évidemment, un des joueurs, via son personnage, se met à draguer la fille, et ça met la fille super mal à l'aise, et puis ça met très rapidement tout le monde mal à l'aise. Parce que évidemment, enfin bon, c'est toujours, on se cache derrière, oui, mais c'est mon personnage, mais alors pourquoi tu dragues pas des autres mecs qui sont en train de jouer une nana? Pourquoi tu dragues la seule fille du groupe qui a fait l'effort de venir jouer avec nous? C'est vraiment, je pense que c'est un des grands classiques. Et
Bien
c'est
sûr.
une des raisons pour laquelle moi j'ai un peu décidé de, enfin, même non consciemment, je m'en rends compte maintenant, mais de dire non, on fait pas de romance entre joueurs, hein, en me disant c'est plus accueillant pour une joueuse féminine qui arriverait par exemple.
Carrément.
Mais par contre, c'est marrant, c'est qu'il tu l'as mentionné tout à l'heure, hein, toi, mais ils l'ont pas mis. Mais je pense qu'ils auraient pu mettre un PvP, quoi. Donc tout ce qui est joueur versus joueur, puisque les joueurs qui complotent l'un contre l'autre, carrément qui. Tu joues à Donjons et Dragons et un autre personnage joueur t'attaque et te tue, tue ton personnage cinquième niveau que t'as mis super longtemps à faire monter de niveau et auquel t'es super attaché. Je suis pas sûr que tu sois super content non plus. Ils en ont parlé dans le fameux bleed, là, le
Ouais,
débordement, mais.
c'est ça.
Dans quelle mesure ça peut pas générer des tensions entre les joueurs eux-mêmes quand ça se produit. Alors, on va dire oui, mais dans mon groupe, ils vont pas s'entretuer. Oui, bah, apparemment, il y a beaucoup de choses qui se passent pas dans mon groupe à moi, mais qui peuvent se passer dans d'autres groupes. Donc, je suis pas
Exact.
sûr que, enfin, tu vois, qu'on doive présupposer que forcément ça se passe nécessairement bien dans un autre groupe.
Clairement.
Mais par exemple, moi, c'est clair que dans mon groupe, je découragerais tout ce qui est PvP en disant non, on peut le faire en roleplay, mais il n'y a aucun moment où j'autoriserai un de mes joueurs à tuer un joueur un personnage d'un autre joueur, quoi. C'est pas,
Clairement.
mais bon, c'est marrant qu'il ne l'ait pas mis finalement.
Mais je pense qu'en plus il y a vraiment des joueurs et je pense de groupes de joueurs qui aiment ça, hein, encore une fois, le groupe dans lequel j'étais, dont je te parlais tout à l'heure, moi je pense que c'est vraiment quelque chose qui leur plaît. Alors après, ils ne prenaient pas le recul nécessaire parce qu'ils se plaignaient que l'intrigue globale des aventures n'avance pas et qu'ils soient capables de passer plusieurs scénarios sans que l'intrigue n'avance. Mais et pour cause, quoi. Il y avait des apartés réguliers pour que pendant que un joueur dort, l'autre aille fouiller dans ses affaires. Enfin, je trouve qu'il y a vite des limites à ça, mais je pense qu'il y a des groupes qui aiment jouer à ce genre de choses. Je pense qu'il y a d'autres jeux qui sont plus appropriés que les scénarios de jeux de rôle qu'on a l'habitude de faire au
Oui,
quotidien pour ça, mais.
je pense aussi, ça tout à fait, hein, je crois qu'il faut préciser, il y a des jeux qui sont conçus par ça, qui proposent de faire du PvP en joueur, où c'est clairement le système de règles est pensé pour ça. Mais je crois que voilà, ça revient en haut de la catégorie plan game team, hein, quel type
Exact.
de jeu on va jouer. Mais c'est vrai que ça devrait être précisé, si toi tu es allé dans ce groupe et que tu savais pas que c'était ça qu'on allait jouer, bah c'est un peu problématique si c'est pas le genre de jeu qui t'intéresse ou que tu aimes jouer, hein, c'est clair. Après, il y a la catégorie problèmes sociaux et culturels, donc avec le racisme, le sexisme, etc. Ah oui, alors, catégorie super intéressante, les religions. Hein, est-ce que dans mon scénario, je peux me moquer des religions? C'est vrai qu'on n'y pense pas, mais si tu es un joueur qui est chrétien et puis que tu fais un scénario in nomine Satanis avec Jésus qui se ramène, qui est présenté comme un hippie complètement shooté, est-ce qu'il va forcément. Ou si un de tes joueurs est témoin de Jéhovah, enfin bon là ça c'est moins plausible, mais bon normalement les témoins de Jéhovah ont découragé le jeu de rôle, mais admettons quoi, et que tu fais un scénario où il y a des démons, même dans Donjons et Dragons maintenant ils ont remis l'emphase sur les démons et les diables dans la nouvelle édition, bah, est-ce que ça va pas mettre certaines personnes mal à l'aise? C'est vraiment intéressant comme réflexion. Hein.
Il y a d'ailleurs dans cette liste-là, moi, un truc qui me parle beaucoup, c'est la partie racisme. Ça me faisait penser au scénario que tu avais fait de Cthulhu Confidential, où vous êtes donc, pour la petite anecdote, si vous ne l'avez pas écouté, donc remontez dans le flux du podcast, comme ça vous pourrez écouter le scénario. Mais c'est une mécanique de jeu de rôle où il y a un maître du jeu et un seul joueur. Et en l'occurrence, alors c'était lequel de tes joueurs qui avait fait ça? Je ne me rappelle plus.
C'était Thomas.
Thomas, qui avait interprété un inspecteur, mais il y avait des liens avec ce qu'on peut vivre sur le plan du racisme qui était très fort. Et je pense que voilà, ça s'est très très bien passé entre vous deux et il y a rien de problématique. Mais je pense que les situations de vie des uns et des autres peuvent être difficiles. Et c'est pas forcément un truc évident au départ que tu vas te retrouver dans cette situation-là quand tu acceptes de faire cette campagne de jeu de rôle de Cthulhu Confidential. Tu vois, je suis pas certain que ça fasse partie des choses que tu aurais pu être amené à dire à la personne à qui tu jouerais en face de toi, qu'elle soit d'ailleurs même noire ou pas, je pense que ça pas forcément le genre de choses qui auraient été abordées et ça peut mettre dans des situations peut-être très inconfortables si c'est pas abordé avant.
Oui, mais là, Cthulhu Confidential, justement, ça fait partie de cette nouvelle vague de jeux qui prennent ces problématiques en cause. Et donc, oui, là j'avais clairement averti Thomas, je lui avais demandé la question. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le scénario, il y a moyen de moduler le degré d'immersion dans le racisme.
Ah, c'est intéressant, ça je savais pas.
Ouais, donc,
D'accord.
en fait, il y a apprendre avec précaution. Il y a des cases qui disent. Si vous voulez recréer la situation du racisme vers plus de réalisme des années 1930, faites jouer la scène de cette façon-là. Et si tu ne prends pas en cause la case, ben, le racisme est minimisé, hein. Il y avait des exemples très concrets. Par exemple, quand tu arrives au commissariat de police, si tu prends le racisme maximal, les inspecteurs de police Donc, tu joues un détective privé noir, hein, dans les années 30, et alors, si tu joues l'option maximale, ben, il t'encase dans la porte, quoi. Il te bourre pour que tu t'encases dans la porte au moment où tu rentres dans la salle de, j'allais dire, d'interrogatoire, mais enfin, voilà, de questionnement. Donc, il y a vraiment de la violence physique qui est exercée sur le personnage, tandis que si tu joues la séquence sans ça, ben, ils vont être beaucoup plus. La description, en tout cas, va être beaucoup plus soft, même si l'idée est quand même un petit peu présente, hein. Et en
C'est
plus,
très
dans.
intéressant ça.
Mais dans Cthulhu, ouais, moi j'avais adoré ce système-là. Et en Cthulhu Confidential, il y a trois personnages. C'est vrai que j'ai joué que le détective qui est noir, mais en fait, il y a une autre personnage qui est une femme dans les années 30. Et là, c'est plus axé sexisme. Et le troisième personnage, il est bisexuel, si le meneur de jeu le souhaite, enfin ça aussi, ou le joueur, quoi. Donc tu peux présenter l'option au personnage, au joueur. Et s'il ne le souhaite pas, tu peux jouer en n'introduisant pas du tout les problèmes d'homophobie, etc. Mais, parce que dans le jeu, tu reçois des cartes, hein, donc tu as un coup de foudre sur un personnage, et donc si tu dis j'accepte de jouer l'option il est bisexuel, tu vas recevoir des cartes, tu as un coup de foudre sur des personnages qui sont des hommes alors que tu es un homme toi-même. Tandis que si tu refuses l'option bisexuel, enfin tu veux pas aborder la problématique d'homosexualité, ben simplement dans ces scènes-là, le carré, enfin voilà, tu joues pas le carré, donc tu reçois pas la carte en question. Ouais. C'est une mécanique vachement intéressante. Hein.
C'est cool parce que tu vois, ça contredit ce que je disais au début, qui était de dire que les jeux... Alors là, c'est bien particulier, mais je disais que les jeux de rôle n'apportent pas cette pédagogie du consentement avant. Bon, aussi parce que c'est peut-être un truc qui est plus travaillé maintenant qu'il l'était moins avant. Ça sera peut-être plus intégré maintenant dans de futures éditions. Mais là, par exemple, tu es en train de me donner un contre-exemple parfait, mais parce que j'imagine que ça, c'est trop central pour qu'on passe à côté de cette possibilité de graduer comme ça les éléments de
Oui, puis
racisme.
c'est vraiment super nouveau. Hein. Je veux dire, j'ai jamais. Enfin, il faut aussi. Oui, voilà, il y a 5 ans, je ne rencontrais pas ce genre de choses dans les jeux. Tandis que maintenant, on voit que même les jeux plus mainstream comme ça commencent à inclure ce genre de réflexion dans les jeux. C'est pour ça qu'on en discute tous aujourd'hui.
Tant mieux, c'est cool.
La catégorie suivante, c'est problèmes mentaux et physiques. Ouais, bah là, écoute, il y a évidemment le viol.
La torture.
La torture, ouais.
Et il y a les notions de grossesse
Ouais,
là-dedans.
perdre un bébé, ouais, c'est super intéressant parce que ça pourrait, dans l'appel de Cthulhu, tout ça peut arriver. Hein. C'est vrai qu'il y a des choses. Peut-être, enfin, je ne le ferai pas à un joueur, mais ici, c'est même pas dit à un joueur, enfin, un personnage joueur. Mais un PNJ, tu pourras avoir un scénario où, voilà. Bah, je veux dire, même chez Lovecraft, il y a la nouvelle où il y a un des dieux qui se reproduit avec une humaine, enfin, qui. Enfin bref, même Lovecraft, forcément, Lovecraft traite de ces thèmes, donc oui, enfin même, on peut penser aussi au profond qui viole les humains, etc. Donc bon, voilà, ces thèmes sont présents chez Lovecraft, donc c'est vrai que c'est pas mal qu'ils soient dans la liste. Hein. Il y a aussi terrorisme, Ah oui, alors il y a ah, j'arrive pas à le dire, gaslighting, et ça c'est manipulation mentale, ça c'est aussi intéressant. Parler pour voilà comme un tu sais un comme si t'as un mari manipulateur ou ça c'est aussi enfin un mari comment ouais manipulateur je sais pas le dire autrement un peu borderline psychopathe qui arrête pas de te remettre en cause tout ce que tu dis etc. Ils ont ajouté ça dans la liste mais même aussi c'est vrai que le cancer voilà si t'as des proches qui sont morts de ça c'est pas vraiment
Effectivement. Il y a la paralysie aussi, et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui, là encore, se discute pas, quoi. C'est le fait d'être. Ça se rapproche à la claustrophobie que tu mentionnais tout à l'heure,
Ouais,
parfois,
tout à
par
fait.
certains aspects. Le fait d'être physiquement complètement contraint, je pense que ça peut effectivement amener à des situations gênantes. C'est la plus longue des listes, d'ailleurs, et effectivement, donc après, il y a une série de cases disponibles pour. Alors, il y a déjà des lignes dispo pour chacune de ces catégories, parce qu'effectivement, ils n'ont pas non plus la prétention d'être exhaustifs sur l'horreur ou la santé physique, mentale, etc. Mais il y a aussi donc la possibilité d'ajouter des thèmes additionnels qui se rattachent peut-être pas à aucune des catégories, parce que c'est vraiment des choses qu'on pourrait ne pas voir venir.
Ouais, c'est clair.
Je me rappelle d'ailleurs quand j'ai vu cette liste et quand j'ai lu ce document, je me suis demandé si ça pouvait pas être aussi un sujet à aborder en amont. Je repense à P1 PDD que tu as dû écouter hein, de Piouf ou sa campagne de jeu de rôle. Alors, je suis un peu gêné, je voudrais pas spoiler ceux qui ne l'ont pas écouté, mais en gros, il arrive aux joueurs une situation que peut-être pas beaucoup de joueurs accepteraient. sur lequel ils n'étaient pas prévenus. Et donc là, on ne parle pas forcément d'un thème en particulier qui pourrait être gênant, tel que ceux qui sont abordés dans la liste, mais quelque chose qu'on peut remettre en question de manière profonde pour ton personnage, qui peut là aussi être sujet à gêne. On en avait parlé un petit peu avec Piouf sur le fait que c'était quand même assez... ça pouvait être dérangeant, quoi, selon les personnes avec qui on le faisait. Donc c'est à manipuler avec beaucoup de pincettes. Et c'est là où, encore une fois, la ligne, au début de la page doit être transmise. Transparente et faire preuve d'un petit peu d'explication, au détriment peut-être de pouvoir vraiment surprendre les joueurs comme on le souhaiterait initialement, mais de dire à quel type de jeu on va jouer. Je pense que ça, c'est hyper important d'être dans une forme de transparence, au risque, bah oui, de ne pas pouvoir mener à terme toutes vos ambitions de faire tomber de très haut vos personnages et de leur faire ouvrir les yeux sur une réalité qu'ils n'ont pas identifiée, quoi.
Ce qui est bien aussi avec la liste, c'est comme on peut la faire en amont de beaucoup de choses, ça évite aussi justement de spoiler des scénarios pré-spécifiques, hein, puisque si tu dis je vais faire la liste et puis pendant au moins un an, bah, on est bon sur cette liste. Parce qu'évidemment, si par exemple, bon, pour tout le compte confidential, j'avais dit à mon joueur Thomas, écoute, si on est d'accord, le scénario inclura des réflexions sur le racisme dans les années 30, pour toujours un noir dans les années 30, est-ce que ça te convient? Bon, c'est pas un très gros spoil, parce que de toute façon, il a ça sur sa
C'est
feuille de
passant,
perso.
quoi.
Mais si en début de soirée, tu dis, bon, écoutez, mon scénario aura des araignées géantes, bah là, ça va commencer à être un peu plus spoil sur la nature du scénario.
C'est
Tandis que
clair.
si tu le fais, si tu fais se remplir ce papier, ben, écoute, tu dois pas l'annoncer vraiment en tout début de partie. Oui, c'est ça. Si, au même exemple, le scénario dont je parlais tout à l'heure, que j'ai jamais fait jouer, mais de l'appel de Cthulhu avec des morts d'enfants et bon, un peu de enfin, on a l'impression que ça évoque la pédophilie, même si c'est en sous-entendu, etc. Mais enfin, c'est l'appel de Cthulhu puriste, c'est assez malsain. Bah voilà, je veux dire, si je le dis en début de scénario, oui, au fait, ce scénario, il y aura des morts d'enfants, etc. Ça spoil, mais si ils ont rempli la feuille, ils ont dit ils sont OK avec ces sujets-là, bah, j'ai pas besoin de le ramener juste avant le début de la partie. Donc ça évite quand même un peu cette problématique de je voudrais pouvoir surprendre mes joueurs avec des choses horrifiques. Je trouve.
Il y a deux, allez, je pense, moi, il y a deux petites choses qui me viennent en tête, qui me semblent intéressantes de souligner par rapport à ce document et par rapport à cette liste. C'est, alors, on l'a dit tout à l'heure, mais c'est pas parce qu'on coche ces cases-là que tout ce qui est en vert, on n'a pas le droit de changer d'avis. Là encore, hein, ça ne veut pas dire que c'est immuable. D'où la carte, effectivement, dont tu parlais tout à l'heure, la X-Card, qui mérite, qui a cette plus-value-là, qui permet à tout moment de changer d'avis. Et puis, alors, ils disent un truc qui m'a fait sourire, mais c'est important de le souligner, je pense. C'est pas parce que les choses sont en opt-in, donc c'est pas parce que les sujets ont été listés comme étant en vert pour les joueurs qu'il faut en abuser non plus. Il y a ce passage un peu dans le document où ils disez que, en gros, voilà, c'est pas parce que tel joueur a coché ça qu'il faut en mettre triple dose à toutes les sauces, à tous les scénarios, parce qu'au bout d'un moment, ça peut être dérangeant aussi d'en abuser, quoi. Donc, je trouvais ça intéressant en tout cas. Du coup, alors, question pratique, alors, je sais pas si tu as d'autres choses à rajouter, mais surtout, dis-nous, est-ce que tu penses faire remplir cette liste par tes joueurs ou par d'autres personnes que tu ferais venir dans ton groupe?
Ouais, je pense que, en tout cas, j'y songe très sérieusement et je pense aussi à utiliser la X-Card, même si je te disais au début, ça peut être un peu awkward, bizarre, enfin, mais je pense que ouais, je vais le faire, même si ça amène pas à grand-chose ou qu'ils le disent, moi non, il n'y a pas de problème, etc. Au moins, je l'aurais fait et bah écoute, s'ils me disent que tout est OK, voilà, tout est OK, mais au moins, je l'aurais fait et je serais tranquille. Mais encore une fois, c'est vrai qu'en tant que meneur du jeu, mon but, c'est que les gens passent un bon moment. Donc,
Bien sûr.
ce serait un peu débile de se priver d'un outil et de risquer de faire que quelqu'un s'amuse pas cette soirée-là à cause de ça. Hein.
C'est un peu comme une assurance en fait cette carte, hein. Je crois qu'il faut se la voir comme ça. Il y a plein d'assurances qu'on paye et puis bah, peut-être qu'on n'aura jamais l'opportunité de s'en servir et d'avoir les contreparties. Mais elle est là et peut-être que le simple fait qu'elle soit là aide aussi. Cette carte-là peut aider aussi à détendre les joueurs parce qu'ils savent qu'ils ont un espèce de recours en cas de problème. Ça peut peut-être aussi faciliter l'appropriation des événements par les joueurs et par le maître du jeu du coup. Donc, moi, je pense vraiment que je vais utiliser ça de manière systématique, cette liste en amont, et puis le petit rappel de la carte au début, avant même d'expliquer les mécaniques de jeu, ça prend 30 secondes. À la limite, je préfère passer pour le zozo qui se prend trop la tête, plutôt que de créer des situations gênantes, quoi. Surtout quand, bon, j'en ai vécu de mon côté, donc j'ai pas envie que d'autres en vivent.
Ouais, ce qui est marrant, c'est que je me suis aussi fait la réflexion par rapport au podcast. C'est vrai que je diffuse des épisodes, mais
Ah oui.
les éléments que mes joueurs considèrent comme non problématiques pourraient l'être pour les auditeurs. Et c'est vrai que, bah, évidemment, là, on ne peut pas vraiment contrôler. Enfin, ou alors, il faut bien préciser au début, dans l'intitulé de l'épisode, ce que ça va être comme histoire, etc. Ou, faut que bon, évidemment, avec un podcast, on n'a pas besoin d'un hit card. Hein. Si quelque chose nous
Non,
dérange, on fait juste
on met
pause.
pause.
Voilà. Mais c'est vrai que ça m'a quand même fait réfléchir à ça. Ouais, puis surtout que dans mon groupe, on a un groupe très garçon. Alors, il y a du parler garçon qui arrive. parfois, je me dis, bon, je dois avouer que parfois, je coupe des choses hein, qui sont dites.
Ah, d'où l'editing.
Mais moi j'édite, hein. Les gens se rendent pas compte que j'édite, mais voilà quoi. S'il y a des choses qui me semblent too much, c'est vrai que parfois je repasse derrière en disant bon ça c'est pas ouais. Parfois on m'a fait même des remarques sur le contenu de l'épisode, très
Ah.
rarement, une fois en 10 ans je pense, ou 2 fois on m'a dit ouais ce passage-là, moi ça a activé des choses chez moi et je suis repassé à l'editing, j'ai réenlevé le passage et j'ai reposté l'épisode en
Ah.
stumbling sans que personne s'en rende compte.
Et donc, faut te contacter par message privé et t'envoyer de l'argent pour que t'envoies le segment caché.
Non, je crois plus que je l'aurais, mais ouais, mais enfin, donc je suis toujours preneur hein, si jamais je diffusais un truc. Mais bon, c'est vrai que parfois on a fait des choses qui étaient un peu plus trash. Alors, parce que c'est ok pour mon par exemple, si vous vous souvenez, il y avait Carcosa,
Oui, c'était très
Montana,
bizarre ça. Ouais.
il y avait voilà qui était ouais. Mais bah, je vais donner un autre exemple, peut-être parce que c'était très inspiré par ça. Mais par exemple, il y a un jeu de rôle que dans le barbare. Et le problème dans le scénario là, c'est que, enfin, j'ai lu des critiques de ce nouveau jeu, il est bien, mais alors ils essayent d'éliminer le sexisme de Conan le Barbare. Évidemment, c'est
Ah.
un peu problématique parce que ça fait partie du
Ça,
style
c'est
d'histoire
central, ouais.
aussi. Donc, comment on fait pour gérer ça si on enlève l'aspect, ouais, Conan doit sauver une damsel en détresse. Est-ce qu'on fait encore du Conan le Barbare? Et si. Ouais. En gros, Conan le Barbare nous devrait le choquer, on devrait tous arrêter de jouer à Conan le Barbare, peut-être, je sais pas, mais c'est vrai que c'est. Mais enfin, bon, voilà. Carcosa était un peu comme ça, en disant, bon, mes joueurs, ils étaient là, ouais, c'est cool, c'est du pulp, c'est complètement débile, on le sait bien, et eux, ça les dérange pas. Honnêtement, en fait, quand j'ai joué Carcosa, moi, ça m'a dérangé à certains moments.
C'est vrai, ah ça c'est rigolo.
C'est pour ça qu'on a arrêté aussi la campagne assez vite. Enfin, il y a eu d'autres raisons, mais enfin, c'était pas très long. Mais j'ai arrêté l'expérience. En fait, c'est vrai que je le faisais comme une expérience. Et c'est vrai qu'il y avait, des descriptions très pulp et très sexistes, justement, qui viennent du genre Heroic Fantasy, qui me mettaient mal à l'aise. Et je suis passé au Seigneur des Anneaux, il n'y a pas ce genre d'élément dedans, tu
Oui, effectivement, c'est moins problématique sur ces plans-là, effectivement. Oui, t'as raison.
Mais c'est vrai que c'est intéressant, les styles. Ouais. Et par exemple, il y a aussi un autre exemple que j'aime bien donner, c'est les elfes noirs. Hein. Les elfes noirs dans Donjons et Dragons. Parce que les elfes noirs sont toujours chaotiques, mauvais. Hein, donc, c'est des créatures maléfiques par défaut. Ils vivent sous la terre. En plus, c'est une société matriarcale. Donc, les elfes noirs sont des créatures purement mauvaises et dont les leaders sont toujours des femmes. Et en plus, ils ont la peau noire, quoi. Merci, merci Donjons et Dragons. C'est super.
C'est compliqué à gérer ça, effectivement.
Et d'ailleurs, un podcast que j'écoutais sur le sujet, ils ont dit non, c'est bon, quoi. Il faut juste enlever les elfes noirs du
C'est
background.
clair.
Les elfes noirs. Mais le problème, c'est qu'il y a un des auteurs, Henry Salvador, qui a écrit une super saga qui
Qui
est
est
très populaire.
incroyablement bien, ouais.
Et alors, le problème, c'est
Brist.
que c'est un trope aussi qui est le bon elfe noir. Mais ça, c'est aussi un trope raciste de dire, tous les noirs sont des barbares, je sais pas. Mais il y a un noir qui est quand même un bon noir, lui, quoi. Même cette saga-là est super problématique.
Bien sûr.
Et par exemple, moi, c'est vrai que, par exemple, je joue à de l'héroïque, non, pas de l'héroïque, de la fantasy avec mon fils, à Hero Kids, hein, le jeu de rôle pour les enfants, là, qui est du Donjon et Dragon simplifié. Et ils ont. Pas le créateur de base, mais c'est open source, donc d'autres personnes peuvent proposer des scénarios. Et il y en a un qui a proposé des scénarios avec des elfes noirs. Et je dis, niette, hein, j'aurais jamais scénario, je n'introduirai jamais l'idée des elfes noirs quand je joue avec mon fils, c'est tout, quoi. Dans mes univers, dans Donjons et Dragons, les elfes noirs n'existent pas, c'est tout.
Je crois que tu touches du doigt tout l'intérêt d'ailleurs même du doc dont on a parlé, de la liste, de la démarche même qu'on peut faire dans le jeu de rôle. C'est que c'est pas les sujets qui peuvent être pour moi des problèmes. En fait, en soi, le fait que les elfes noirs soient ce qu'ils sont, etc. Peut-être que dans certains groupes, dans certains environnements de jeu privés, etc. Ça peut avoir une vie, ça peut avoir un intérêt. Comme tu dis, les romans sont super de Salvador. Pour autant, j'irais peut-être mettre beaucoup plus de pincettes, voire penser à autre chose, si je devais jouer avec des personnes qui ont, assez légitimement ou pas d'ailleurs, cette sensibilité de la cause raciale. Et de manière générale, c'est vrai pour le jeu de rôle, mais c'est vrai pour énormément, énormément d'autres choses, c'est que tout dépend du contexte. Encore une fois, je m'intéressais beaucoup au blackface ces derniers temps, donc on sort un tout petit peu du jeu de rôle là sur cette fin d'épisode. Mais je pense que le blackface, je peux tout à fait comprendre que des personnes se griment en noir pour s'amuser sans penser à mal. Le seul truc, c'est qu'une fois qu'ils savent la portée que ça peut avoir auprès des personnes noires, auprès de l'histoire, et une fois qu'ils savent les symboles que ça a et la représentation que ça en a, je pense que c'est plus problématique de continuer à le faire de manière complètement libérée en public. Et donc, je pense que c'est pareil avec le jeu de rôle vis-à-vis des relations raciales, de ces problématiques-là qu'on aborde. C'est que tout est histoire de contexte. On peut parler, d'ailleurs, on pourrait aller dans les bandes dessinées hein, pour parler aussi. De la façon dont sont abordées les relations avec les personnes noires dans Tintin, ou même le tout premier album des Schtroumpfs où les méchants sont des Schtroumpfs noirs qui mordent la queue des bleus et qui deviennent noirs et donc méchants. Il y aurait beaucoup d'analogies à faire, mais de manière générale, je crois que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup une histoire de contexte. Et c'est peut-être ça qui amène le document dont on parle aujourd'hui dans l'épisode, c'est que il faut se poser la question du contexte et des relations avec les autres sans prendre en compte uniquement son jugement personnel, quoi.
Ouais, pour l'histoire des blackface, des maquillages de gens blancs qui se maquillent en noir, en fait, en plein dans le sujet, puisque un des problèmes, c'est dans les grandeurs nature où les gens voulaient jouer des elfes noirs, et donc
Ah
c'était des gens
ouais.
caucasiens qui se peignaient les visages en noir pour jouer des elfes
Ah
noirs. Enfin bon, maintenant, évidemment, Donjons et Dragons dit qu'ils sont gris, mais enfin, ça n'arrange pas grand-chose, le bazar.
Ils sont forts.
Ça ne cache quand même pas grand-chose au problème, quoi. Mais c'est vrai que tu vois, même dans la, c'est parce que justement j'ai commencé à faire des parties avec mes enfants. Et en fait, quand tu joues avec tes enfants, tu te dis aussi, oui, mais quel message je veux leur transmettre finalement d'un point de vue pédagogique à travers le jeu. Enfin, ou c'est même pas pédagogique, mais est-ce que je veux que dans mes parties il y a des trucs sexistes ou racistes qui apparaissent? Enfin, c'est pas, voilà, ça fait partie aussi des questions qu'on se pose quand on commence à jouer avec ses enfants en se disant. Quel message je transfère à travers ce que je lui propose comme vie de joueur, hein. C'est vrai que c'est pas. Ouais,
Est-ce que
oh là
tu peux
là.
d'ailleurs peut-être, et on terminera là-dessus, ou à moins que tu veuilles qu'on dédie un épisode sur le sujet, si tu penses qu'il y a matière à dire. Alors pour la petite anecdote, j'ai un enfant de 7 ans, bientôt 8, il y a plein de gens qui nous écoutent qui sont parents. Tu parles d'Hero Kids que j'avais vu passer, peut-être est-ce que tu as l'occasion de nous faire quelques retours d'expérience de ça justement, parce que moi je t'avoue que autant tu peux avoir un sentiment de gêne au sujet de la X-Card vis-à-vis de tes joueurs, moi je l'aurais pas forcément, mais je suis plus gêné là pour franchir le pas et proposer de faire des scénarios de jeux de rôle d'Hero Kids à mon fils et à ses copains. Tu peux nous en toucher quelques mots ou pas?
Oui, donc il y a pas mal de jeux qui existent maintenant pour proposer, qui proposent pour initier le jeu de rôle aux enfants. Et moi, j'ai commencé à utiliser Hero Kids à partir les premières parties. Mon fils avait 5 ans, je pense.
D'accord.
Et moi, j'ai eu une super expérience. Bon, évidemment, il y a des bémols à faire dans le sens que la manière dont on a fait, c'est que j'invite des amis à lui, mais j'invite aussi les parents et les parents jouent avec.
Ah,
Et donc,
excellent.
ça structure un
Super.
peu le jeu. Et en fait, dans Hero Kids, on joue avec un plateau de jeu et des figurines en papier. Et
D'accord.
donc, en fait, chacun des combats chacune des zones de jeu, bah, c'est un combat où les joueurs bougent sur un. Donc, on prédécoupe. Enfin, c'est simplement une histoire de photocopier et de découper avec des ciseaux. Hein, c'est vraiment très, très bon marché, entre guillemets. Et donc, c'est du proto. Dans Pathfinder, il y a des meneurs de jeu qui utilisent des plateaux de jeu et des figurines, ou dans Donjons et Dragons. Moi, je ne le fais pas, c'est pas trop mon style. Mais en fait, pour les enfants, c'est nickel. je sens bien que mon fils a besoin de ce support physique pour visualiser ce qui est en train de se passer. Par exemple, au niveau des combats, bah, il sait qu'il peut se déplacer X cases pour faire une attaque au corps à corps, il doit être à côté de l'ennemi. Donc, pour lui, ça rend les choses beaucoup plus concrètes d'avoir le plateau de jeu. Et donc, en fait, les scénarios sont classés par difficulté, mais en gros, c'est surtout la longueur de la partie en fonction du nombre de rencontres, donc d'affrontements qu'il y a eu. Par exemple, un des scénarios de base, c'est le classique. Ah oui, c'est les tropes, évidemment, mais là, c'est bien. Enfin, c'est justement, ils connaissent pas, donc c'est les bons tropes, entre guillemets. Il y a une auberge dans la ville où l'action se passe. Et les enfants, l'enfant du cuisinier se fait enlever dans la cave. Évidemment, c'est par des hommes, des rats géants. Ils doivent descendre dans la cave. Et donc, à chaque fois, quand ils descendent, on commence à déployer les cartes par zone de cave qu'ils explorent. Et puis, en fait, c'est du combat. Et au fur et à mesure, on peut prendre des scénarios de plus en plus compliqués, qui, entre guillemets, ils sont plus compliqués. Enfin, évidemment, pour des adultes, ils sont super simples. Hein, mais pour des enfants, c'est plus compliqué. Là, maintenant, il a 8 ans. Donc, j'ai commencé à prendre des scénarios qui incluent faire des choses qui sont autre chose que du combat. Et un peu de roleplay. Mais c'est vrai que le cap n'est pas toujours évident à passer, enfin, et ça demande un peu d'entraînement. C'est vrai que c'est assez marrant parce qu'ils ont toujours envie de combattre. Hein. Si on propose une solution non violente
Bon,
à une
comme les vrais joueurs
situation,
adultes,
voilà.
hein, faut pas se leurrer.
Je suis pas sûr que
Je
ce soit toujours le
rigole,
cas,
je
mais c'est
rigole.
vrai que. Il faut être, si t'écoutes pas, il y a un podcast en anglais qui s'appelle Skype of Cthulhu, et dans ce groupe, ce groupe-là, le mec qui enregistre le podcast, il est parfois joueur, mais aussi meneur du jeu, enfin les deux. Et il ne combat jamais, quoi. Dans l'appel de Cthulhu, il ne combat jamais. Qu'est-ce que fait ton personnage? Il se cache sous une table. Je laisse les autres se faire tuer. Je m'enfuis. Enfin, il refuse toujours d'engager les combats parce que je sais pas pourquoi. En fait, c'est son style, mais
C'est peut-être qu'il a
pourquoi?
coché en rouge la case de la fiche de consentement sur les combats, tu vois.
Ouais, non, mais ce qu'il y a, c'est que je crois qu'il crée des personnages qui sont pas des combattants, et puis il se dit, je suis face à un monstre avec des tentacules. Non, je ne vais pas aller l'attaquer avec mon Opinel. Il est hors de
Quel bon
question.
sens. Mais quel bon sens, en fait.
Ouais, mais bref, c'est un contre-exemple de joueur qui visiblement n'est pas
Bien
dans le
vu.
combat. Mais ouais, donc voilà, passer le cap de faire du roleplay ou de faire des actions. En gros, ça demande de les introduire un petit peu à chaque fois, en douceur, pour qu'ils se familiarisent. Mais les scénarios, ils te donnent un peu ces éléments-là. Enfin, tu peux, de toute façon, tu les télécharges donc sur DriveThruRPG, scénario par scénario. Et tu regardes, et il y a aussi le nombre de rencontres. Ça, c'est toujours annoncé à l'avance. Donc, ça te donne la longueur du scénario, en gros. Hein. S'il y a 5 rencontres, 7 rencontres, etc. Alors, en général, ils conseillent de jouer assez court, mais en fait, les enfants, ils ont tendance à s'éparpiller. Donc, j'ai pas réussi à descendre en dessous d'une heure et demie.
Ah oui.
Et donc, au départ, même en faisant leur scénario le plus court, 4 rencontres, un truc comme ça, je faisais une heure et demie. Et c'est vrai qu'à 5 ans, après 3 quarts d'heure, son attention, elle était partie, quoi. Mais ceci dit, à chaque fois, il rapportait qu'il avait adoré. Hein. Et puis, il voulait jouer avec les figurines après, tout ça. Et puis, il se demande à chaque fois, ça va être quoi le nouveau monstre? Et ouais, non, moi j'ai une super expérience. Et alors, récemment, maintenant qu'il a 8 ans, pour son anniversaire, j'ai invité ses copains et on a fait moi meneur de jeu et juste des enfants. Et à 8 ans, ça a fonctionné. Hein. C'est vrai que il voulait taper sur tout ce qui bougeait, quoi. Mais tu rencontres le maire du village, je tape dessus.
Ah oui, d'accord.
Oui. En fait, l'idée qu'il faut pas taper sur tout ce qui bouge, tu rencontres ta mère, je tape dessus. Mais ça, j'ai même maîtrisé avec des adolescents. Hein. C'est ouais. En fait, ça fait partie de l'apprentissage du jeu de rôle que tu dois pas d'apprendre. Ça vient aussi du jeu vidéo, je crois. Dans le jeu vidéo, c'est tellement facile de dire, ouais, t'as un ennemi, tu tires dessus.
Effectivement.
Mais en gros, Hero Kid, ça sert à leur apprendre et c'est une question de le faire par dosage et d'introduire les éléments plus complexes. Au fur et à
Progressivement.
mesure de manière ouais progressivement ouais. Alors évidemment à un moment donné bah, quand il sera prêt à dos j'enlèverai le plateau de jeu et bon à ce moment-là de toute façon on transitionnera vers et je pense que Hero Kids permet vraiment super facilement de transitionner vers Donjons et Dragons ou Pathfinder hein, puisque c'est un Donjons et Dragons ou Pathfinder vraiment vraiment très léger en termes de règles ouais désolé pour les auditeurs j'enregistre pas ces parties-là parce que je suis pas trop dans le trip de diffuser des enfants en train de jouer enfin bon vous comprendrez surtout voilà quoi
Bien sûr.
c'est un peu délicat de les adultes ils peuvent consentir à ce que je diffuse leur partie mais
Ouais, les enfants, ça va être
enfin,
plus délicat.
voilà. Donc
Mais du coup, ça veut dire, moi, c'est hyper intéressant ton retour parce que j'avais en tête le fait que c'était moins. L'image que j'en fais, c'est presque un HeroQuest, tu vois. Enfin, je sais pas si tu connais le jeu de
bien
plateau
sûr ouais, ça je connais
HeroQuest.
bien ouais,
Ça me fait penser à HeroQuest, en fait, ce que tu dis, sauf que, évidemment, ça a cette vertu qu'HeroQuest n'a pas, que tu peux sortir du combat et du déplacement, en fait.
Oui, c'est ça, ouais, non, c'est vrai, c'est une très bonne idée. Et que voilà, il y a quand même un élément de, oui, c'est ça, de scénario, simplement, dès que, par exemple, bon, l'élément de scénario, ça va être de dire, il y a deux mineurs qui ont disparu dans une mine, il faut aller, et puis alors, voilà, on place les figurines en début, et puis ils se déplacent. Mais ouais, mais enfin, le support, moi, je trouve que le support physique, je vois que le support physique pour les enfants est super important pour qu'ils savent pas encore visualiser dans le théâtre de leur esprit encore, en termes de règles. Et parfois, ils font des remarques dans ce sens-là. Je vais vraiment faire du retour d'expérience pur et dur ici, mais je fais un scénario avec des pirates et le scénario dit que donc les enfants ont été enlevés et leurs parents aussi. Donc tout le monde est dans les cellules du bateau pirate, mais il n'y a pas de figurine prévue pour les parents. Il y a la cellule, mais ils ne sont pas dessinés les parents. Et alors les enfants, ils disent, mais ils sont où les parents? Ils ne sont pas dans la cellule. Ils disent, si, les
Excellent.
parents sont dans la cellule, mais pour eux, les parents n'étaient pas dans la cellule parce qu'il n'y avait pas de
Il n'y
figurine de
avait pas la
parents dans la
figurine.
Tu vois,
C'est génial.
c'est super marrant. Un autre truc qui m'est super arrivé, c'est que je faisais un scénario Halloween, et donc c'était une histoire de loup-garou. Et alors je me lance dans une description du loup-garou pour leur faire un peu peur, et les enfants étaient là, oh, bon, c'était soft, mais bon, pour faire peur à des enfants de 8 ans. Et puis je sors la figurine, je la place sur le plateau de jeu, et ils me font, mais ça fait pas du tout peur ce machin. Parce que pour les gens qui connaissent pas Hérokis, les dessins sont super mignons, quoi. C'est un loup-garou, mais ça fait pas peur, quoi. Ils étaient complètement déçus. Ils ont découvert le décalage entre leur imaginaire versus une figurine. Hein. C'était super marrant, quoi.
C'est génial, c'est super,
Bah,
excellent.
tu devrais. Enfin, moi, je t'encourage à essayer, je trouve. Quoi. Et Hérokis a été traduit en français le mois dernier, je pense. Donc maintenant, il est disponible en français pour les gens qui parlent pas anglais. Quoique, le niveau d'anglais n'est pas monstrueusement compliqué. Hein. Je pense que la plupart des gens, si vous avez fait un peu d'anglais à l'école, enfin, c'est pas lire les règles de Pathfinder en anglais. Hein.
Oui, effectivement, c'est plus léger. C'est deux joueurs, c'est bien, ou il faut plus, peut-être?
Moi, en général, je fais mon fils, un ami et puis les parents d'un ami. Donc, ça fait quatre joueurs.
D'accord, ok.
Sinon, je l'ai fait avec. Ouais, maintenant, la dernière fois, on l'a fait avec mon fils et deux de ses amis à lui.
D'accord.
Ouais, deux, trois, quoi. Mais
Ok.
quand il y a les parents, surtout les premières fois, les parents, si c'est des rôlistes, et c'était des rôlistes forcément, parce que voilà, ils peuvent structurer, hein, ils donnent l'exemple. Et une fois qu'on l'a fait quelques fois, les parents deviennent émotionnels, évidemment, parce qu'on leur a. En fait, les parents ont montré comment jouer. Hein.
Super.
Et tandis que maintenant, quand mon fils joue avec ses copains à lui et qu'il n'y a plus d'adultes, c'est mon fils qui monte les jambes. Il dit, ouais, Hérokids, c'est cool. Et puis il dit, bah ouais, tu fais comme ça. Et c'est lui qui monte l'exemple finalement.
Génial, génial. Écoute, je vais me pencher sur le sujet. Super, est-ce que tu as fait le tour de tout ce que tu voulais qu'on aborde du coup dans cet épisode?
Ouais, c'est déjà long. On va peut-être dire un dernier mot, un petit mot des campagnes en cours quand
Bien sûr.
même. On est toujours dans The One Ring.
Qui plaît toujours autant, j'ai l'impression, aux joueurs et aux auditeurs, hein, non?
Ah,
Enfin,
j'espère, j'espère.
moi,
Moi,
ça me
les
plaît beaucoup d'écouter, en tout cas.
ah, je suis content de l'entendre. Moi, j'ai l'impression que Pathfinder a beaucoup de succès auprès des auditeurs. Enfin, je vois sur Twitter plus de réactions.
Ah,
Mais il faut dire que The One Ring est particulièrement long comme campagne. Peut-être que c'est un investissement de temps qui est plus long, mais.
ouais.
Ouais, moi je trouve ça très très toujours très très chouette, ouais. Qu'est-ce que je pourrais dire sur ouais, bah tout se passe bien, c'est tout ce que j'ai envie de dire, je sais pas. L'assombrissement continue, on va dire. Et encore j'ai encore des épisodes en phase d'editing pour le moment. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des gros événements qui arrivent dans la campagne, entre autres, Saruman arrive.
Ah
À
oui.
Rosgobel, donc ils vont faire intervenir Saruman. Ah oui, si, c'est ce que je dois dire, c'est les news, c'est le fait qu'il y a une nouvelle édition de One Ring qui va sortir en anglais.
D'accord.
Ils ont annoncé évidemment une campagne à la Moria et une autre au Gondor, ce qui rajoute encore plein de matériel à jouer.
Quand tu
Mais
dis
alors.
nouvelle édition, c'est que c'est une nouvelle édition du jeu de base ou c'est des nouvelles extensions?
Non, c'est une nouvelle édition du jeu de base, ouais.
D'accord, ok. Et sur le fond, il y a beaucoup de choses qui changent, tu sais pas?
Je sais pas encore, mais je pense qu'une des choses principales qu'ils vont faire, c'est inclure toutes les classes de, enfin, classes, culture dans le livre de base, ce qui n'était pas le cas à l'heure actuelle.
D'accord.
Donc, tout ce qui est jouable sera dans le livre de base, donc, y compris les hommes du Gondor, les cavaliers du Rohan, etc. Alors que, à l'heure actuelle, dans le volume de base, c'était pas encore inclus. Donc,
D'accord.
ici, ça va vraiment inclure toutes les terres du milieu, ouais. Bah alors la seule chose, ça je vous préviens, c'est que en fait ils ont aussi bougé la ligne du temps et donc la nouvelle édition commencera donc 15 ans après le début, après la bataille de Sauron, pas de
D'accord.
Sauron, de Smaug. Et donc, en fait, moi, dans ma campagne à moi, je suis seulement 10 ans après la bataille avec Smaug. Donc, je suis encore 5 ans en arrière par rapport à la nouvelle édition, là où va commencer la nouvelle édition.
Mais ce qui est génial, parce que ça veut dire que du coup, il y a un intérêt pour tout le monde. Il y a un intérêt pour ceux qui voudraient commencer avec des bases peut-être un peu plus solides. Et puis en même temps, si tu as profité, bah, comme toi, de la première édition, tu as la possibilité de prolonger l'expérience avec la seconde édition. C'est très malin, finalement.
Oui, tout à fait. En plus, évidemment, ils amènent la ligne temporelle beaucoup plus vers la tentative de reprise de la Moria. Et ça va être leur gros. Et finalement, tenter de reprendre la Moria, on est tous déçus qu'ils ne l'aient pas encore fait. Hein. Je pense que c'était un des trucs qu'on attendait tous. Même mes joueurs à moi, ils m'ont fait. Ouais. Parce que dans la campagne, l'Assombrissant Nummercude, on a parlé des Grey Delves, là, qui est une mine qui était abandonnée. Enfin, c'est arrivé dans la campagne. Et en fait, les Grey Delves, c'était un substitut de Moria, en gros. C'est-à-dire que les joueurs étaient supposés reprendre les Grey Delves, puisqu'on ne voulait pas qu'ils reprennent la Moria, en gros. Mais maintenant, ils vont vraiment avoir la possibilité d'aller dans la Moria. On va voir comment ils vont jouer ça, parce qu'évidemment, les Balrogs et tout ça, enfin, le Balrog, ça sera intéressant de voir comment ils vont contourner tous ces problèmes.
Génial.
Voilà, et alors Pathfinder, on arrive vraiment à la fin du module 2. J'ai posté aujourd'hui, hier ou aujourd'hui, je sais plus, c'était. Non, c'était. Quand est-ce
C'était
que j'ai
même
posté?
avant, non?
J'ai posté le dernier épisode quand? Je l'ai posté il n'y a pas longtemps. Je l'ai
J'ai
posté ce
regardé.
matin. Je
Oh
l'ai
non,
posté ce
c'est pas
matin, en fait.
possible. Ah si, aujourd'hui. Ah, j'avais
C'est
pas
pour
vu,
ça.
pardon. Non, c'est parce que j'ai écouté celui du 7 octobre. Et donc
Voilà.
c'était il y a quelques semaines maintenant, pardon, ouais.
Ouais, je viens de poster ce matin, c'était, je sais plus, mais voilà, c'était ce matin que je l'ai posté là. Voilà, et là, on clôture pratiquement le module 2. Ça veut dire qu'on va attaquer le module 3. Et dans cette campagne-là, chacun des modules est vraiment très différent. Si vous avez écouté la campagne jusqu'à présent, le premier module, c'était à l'asile d'aliénés, le deuxième volume, c'était à Trochemaw, et le troisième volume, bah, si vous avez écouté les parties les plus récentes, vous vous doutez que ça va être un long voyage en bateau vers les lointaines terres du Sud, avec des incursions dans les terres, dans les Dreamlands, hein, les contrées des rêves.
Excellent, excellent.
Voilà. Et toi, ta campagne?
Alors écoute, oui, alors mais j'ai donc le deuxième scénario de la petite campagne là, du ressac de Brin Celidou qui est en cours d'éditing. Alors pour la petite anecdote, je m'étais équipé de matériel audio un petit peu plus poussé qu'un simple micro pour gagner en qualité de son. J'ai eu l'impression d'après mes tests que les joueurs n'étaient pas trop pénalisés parce que je voulais surtout pas que ça nuise à l'expérience de jeu avant tout. Mais voilà, j'avais fait vraiment les choses bien au niveau de la captation du son. Par contre, du coup, j'ai pas pris le temps de finir l'éditing, mais c'est une affaire de jours là. Ça va arriver d'ici peu. Je suis très déçu de cette petite campagne en fait pour tout dire parce qu'autant le premier scénario est génial surtout pour de la découverte de l'appel de Cthulhu pour ceux qui l'ont écouté hein, c'est l'arrivée au phare et c'est une espèce de huis clos qui est très intéressant la deuxième partie se passe dans le village de Brin Celidou en Irlande mais je trouve qu'il a les désavantages d'un bac à sable et les désavantages d'un scénario qui est très contraint donc finalement je suis un peu déçu après l'avoir fait jouer et bah il y a le troisième scénario que forcément je ferai jouer puisque j'ai fait les deux premiers mais sur lesquels je suis pas hyper enthousiaste. Après, je t'avoue que je me suis équipé de beaucoup de matériel de jeu de rôle, comme tout bon fan de jeu de rôle. Mais évidemment, je suis pas certain de ce vers quoi je vais me tourner derrière. J'ai l'excellent Tales from the Loop là, que j'ai
Ah ouais.
acquis et je trouve que ça me ferait vraiment très très plaisir de le jouer. J'ai des éléments aussi autour des confins de l'Empire de Star Wars, dont on avait fait d'ailleurs un scénario en ligne ensemble sur Skype, qui était le scénario d'initiation. Et puis il y a la campagne de Cthulhu, dont j'ai mangé le nom, mais qui était en financement participatif, qui avait été écrite, tu sais, par l'éditeur en France là. Attends, je vais essayer de voir si je l'ai là sous les yeux, pas trop loin pour te dire. Que j'aimerais bien bosser, les 5 supplices.
Ah
Que j'aimerais bien bosser, mais ça m'a l'air d'être un très très gros morceau. Donc voilà, j'ai été
oui.
très occupé pendant un an, j'ai pas pu faire tous les jeux de rôle que je voulais, mais ça va un petit peu changer maintenant. Et tant mieux. Donc vous devriez réentendre des scénarios de ma part maintenant.
Génial, génial. Bah, pour terminer, je mentionnerai que j'aimerais bien qu'on fasse à deux un épisode sur les jeux vidéo inspirés par l'appel de Cthulhu. Il y en a plein qui sont
Ouais?
sortis récemment. Voilà, le jeu Appel de Cthulhu officiel.
Tu y as joué au passage?
Ouais, je suis en train
Ah,
de le
super.
terminer là. Et
D'accord.
puis alors, il y a quoi de Sinking City, la cité qui coule, enfin, qui coule dans l'eau. Il y a pas mal de jeux vidéo sur l'appel de Cthulhu qui sont sortis. Je pense que ça mériterait qu'on fasse un épisode. Si t'as un peu joué à ces jeux aussi, ça pourrait être
Alors moi
marrant.
j'y ai pas joué, mais par contre je comptais faire le jeu, celui que tu as cité là juste avant, puisqu'il est dispo sur Switch en plus, et ça me plairait bien de le faire, mais
Ben voilà, écoute,
ouais.
quand tu l'as joué, on fera
Très
un
bien.
épisode spécial.
Eh ben,
C'est
avec grand
plié.
plaisir. Ça marche, entendu.
Allez, je te laisse prendre
Super.
congé des auditeurs, alors.
Yes, merci beaucoup en tout cas Jean-Michel. Et puis bah, merci beaucoup à vous d'avoir écouté cette conversation. Et vous pouvez réagir, hein. Allez sur le site web, vous pouvez déposer un petit commentaire pour nous dire si vous avez des expériences aussi au sujet des thèmes qu'on a abordés. Et puis bah, dites-nous si votre groupe de joueurs va intégrer lui aussi de son côté, si vous avez un groupe de jeu de rôle, ces mécaniques de consentement au travers de la feuille, de la X-card et peut-être plus si affinité.
Oui, j'allais dire juste que je réponds pas toujours, mais je lis absolument tous les commentaires, hein, sur le site web. Donc, si vous, quand vous faites des feedbacks positifs et tout, ça me fait toujours chaud au cœur. C'est toujours super sympa. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires. Je les lis toujours attentivement. Et aussi, si vous avez détesté et que vous trouvez que je suis le pire meneur du jeu du monde, vous pouvez me le dire, il n'y a pas de
Et
problème.
si t'as gêné des joueurs aussi, ou si t'as gêné des
Exactement,
auditeurs,
ouais.
comme tu nous le disais tout à l'heure. Bon,
Allez,
merci
merci.
beaucoup en tout
Ouais.
cas.
À une prochaine. Ciao,
À
ciao.
bientôt, ciao.